marche du monde.
Cette photo, je peux pas l'oublier.
Nuko mubona mara na matwaza. Urabona kumbaza ubuzima nabayemo. Iyi ni inkoni.
Si vous me demandez la vie que j'ai traversée.
Ni nuko byaje kunyuramo intuzo.
Donc c'est une radiographie en
c'est
fait.
C'est une radiographie.
Que Joséphine déplie devant nous.
Oui.
Iki ngiki ni igiti bakubise hano mu cyaziha. Urabona ko hasadutse.
Ça, c'est l'arbre qu'ils ont enfoncé derrière mon dos. En fait, ils m'ont tué et je ne suis pas morte. Tout ça, je vis avec. Et quand je vais à l'hôpital, on me donne des médicaments. Parce que je n'ai pas perdu une jambe, je n'ai pas perdu. La main, j'essaie de travailler et de gagner ma vie. Je travaille pour moi-même, pour me nourrir, pour ne pas tendre la main à mes tueurs.
Ils m'ont tuée et je ne suis pas morte. Ce sont les mots à la fois terribles et poétiques de Joséphine Campiré, survivante du génocide des Tutsis perpétré au Rwanda d'avril à juillet 1994. 1 million de personnes ont été exterminées. Comme le montre notre invitée historienne Hélène Dumas, le dernier génocide du XXe siècle a été soigneusement planifié par l'État. Les forces administratives et militaires rwandaises ont été mobilisées, mais aussi une large frange de la population civile. C'est ainsi que sur les collines, le voisin est devenu le tueur.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
10 ans de recherche sur le terrain en Rwanda, notamment pour suivre les gachacha, les procès du génocide. Et aujourd'hui, un livre intitulé « Le génocide au village » publié au Seuil, au moment même où le Rwanda se souvient du génocide des Tutsis il y a 20 ans et le commémore. Un génocide, Hélène Dumas, où les cibles des extrémistes racistes sont les Tutsis, mais aussi les hommes et les femmes politiques de l'opposition. Ils sont d'ailleurs les premiers à être assassinés. Pour quelle raison?
Eh bien, parce qu'ils font obstacle, précisément, à la mise en œuvre du génocide des Tutsis, puisque, effectivement, ce sont les opposants politiques Hutus qui sont assassinés le premier jour du génocide, le 7 avril 1994, précisément pour lever les obstacles à la mise en œuvre du génocide des Tutsis.
C'est pour vous un premier élément de preuve pour défaire l'idée reçue selon laquelle ce génocide serait une explosion spontanée de violence entre communautés Tutsis et Hutus.
C'est un premier indice, en effet, mais ce n'est pas le seul. Lorsqu'on regarde les différentes modalités d'exécution du génocide, on voit combien l'État rwandais, les administrations, son armée, sa gendarmerie s'est investie dans la mise en œuvre des massacres et ensuite dans, je dirais, la gestion administrative des cadavres.
Donc un génocide très organisé. Vous citez par exemple entre le 15 et le 18 avril 1994 4 tueries massives dans la préfecture de Kibouye, dans 3 centres religieux, donc on assassinait dans les églises, et un stade.
Oui,
exemple.
Ça c'est un exemple extrêmement frappant de la coordination des tueries pendant le génocide des Tutsis. Cet exemple de la préfecture de Kibouye illustre parfaitement l'investissement de l'État dans la mise en œuvre des massacres. Puisqu'en effet, les victimes ont parié sur la réflexe de protection antérieure lorsque, lors des massacres des années 60, ils avaient trouvé refuge dans les églises. Et dans les années 60, les tueurs n'avaient pas franchi le seuil des églises. En 1994, ils le franchissent, commettant là un acte sacrilège. Je rappelle que les tueurs sont aussi des catholiques, tout comme leurs victimes, et qu'ils assassinent bien souvent dans leur lieu de culte. Et donc, les massacres qui ont lieu entre le 15 et 18 avril à Kibouye, qui font plusieurs dizaines de milliers de victimes, opèrent selon les mêmes modalités. Les gens se rassemblent, on leur coupe progressivement l'eau, les vivres, et puis on poste 2 gendarmes, soi-disant, pour les protéger de quelques attaques d'Inelamwe ou de civils. Et puis, le jour dit par l'administration, eh bien, ce sont des forces coordonnées de l'armée, des miliciens et des civils qui attaquent à l'arme à feu les personnes qui sont réfugiées, en l'occurrence ici dans des centres religieux, un hôpital et un stade.
Alors c'est Kigali, la capitale rwandaise, est bien l'épicentre du massacre. Le génocide est perpétré sur l'ensemble du territoire du pays des mille collines, où Tutsi, Hutu vivent mêlés. On va l'entendre dans les témoignages, parfois au sein des mêmes familles, Hélène Dumas.
Oui, bien sûr, on n'a pas du tout affaire à... Alors on ne sait pas très bien comment les qualifier, les Hutus et les Tutsi, si c'est des... c'est pas vraiment des communautés, hein, puisque effectivement, les Hutus, les Tutsi partagent la même langue, les mêmes croyances, ils vivent sur un territoire depuis plusieurs siècles, donc cette différenciation ethnique, entre guillemets, a une longue histoire, hein, celle dont Jean-Pierre Chrétien vous parlait la semaine dernière, donc c'est très difficile de parler de communautés objectives. Hein. Alors oui, elles sont objectivées par des politiques d'État, puisqu'en effet, les Hutus et les Tutsis sont comptés, et de plus en plus finement compté dans l'appareil statistique rwandais, surtout à partir des années 80. Et surtout, ce qui leur donne une réalité tragique, c'est non seulement la propagande, mais le racisme et les représentations qui sont accolées aux Tutsis. Et malheureusement, le génocide va donner une réalité encore plus tragique à ces identités.
Alors je vous propose de retrouver Joséphine Campiré avant d'entendre un de ses voisins Hutus, justement Augustin Moudadari. Joséphine nous raconte le temps d'avant génocide sur la colline de Nyarurama, à 1500 mètres au-dessus de Kigali.
Moi, quand je suis arrivé ici, c'est des gens, quand on produisait la bière, on pouvait les inviter, ils venaient, on partageait très bien. Ce qui fait que même lors du génocide, ils sont venus nous chercher là où on se cachait. C'était des gens qui connaissaient très bien notre maison. Ça veut dire qu'ils nous ont dit de partir, ils ne nous ont pas tués. Ils nous ont dit, partez là où vous avez habité avant. Parce que à cet endroit-là où vous trouvez la maison, c'était un endroit où je cultivais. J'habitais un peu derrière. C'est là où on rentrait. Et c'est comme ça que, en fait, nous, on est allés se cacher là, en bas, parce qu'ils savaient très bien qu'est-ce qu'ils allaient piller dans la maison.
Ce que vous savez, c'est que le tueur de votre mari vit tout près de vous.
Moi, même si ce jeune garçon a eu le courage d'accepter sa responsabilité, c'est la mort de mon mari. Mais je sais que c'est Seminega, notre voisin, qui a sifflé l'attaque pour qu'elle vienne tuer mon mari. C'était une attaque qui était réunie là en haut, parce que c'était vers la fin du génocide. Ils discutaient comment ils vont récolter nos cultures et puis faire une fête pour se réjouir du boulot qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que ce Sénégalais a sifflé pour venir tuer mon mari. Et ils ont descendu, ils l'ont achevé.
Est-ce que vous avez assisté à l'assassinat de votre mari?
Quand ça a commencé, je ne voulais pas le lâcher. Quand on fuyait ensemble. Et il a fini par me dire de le quitter parce qu'il voulait m'amener chez la belle-mère. Parce qu'il disait que comme elle était Hutu et qu'elle pouvait m'accueillir sans problème. Et moi, je lui ai dit non, non, non. On a signé dans le mal et dans le bien ensemble. Et il m'a raisonné, il m'a dit, toi, tu n'as pas la force pour courir comme moi. Quand je vais courir, tu ne sauras pas courir comme moi. Voilà pourquoi il faut partir.
Hélène Dumas, ce sont des expériences que Joséphine et d'autres Rwandais vous ont confiées au fil de toutes ces années passées sur le terrain pour vos recherches. Des Tutsis traqués par des voisins Hutus, tous des paysans dans ce Rwanda rural des années 90, emportés par cette violence, puisqu'on a l'impression que soit on était tué, soit on devait tuer. Est-ce qu'il y avait une autre voie possible ?
On entendra tout à l'heure le témoignage d'Augustin Moudadari qui montre qu'il y avait d'autres voies possibles. Et Augustin Moudadari n'est pas le seul que j'ai rencontré à Kaninia dans ce secteur à avoir tenté ou réussi de sauver des voisins Tutsi. Donc ce qui montre bien ces actes de sauvetage, qu'il y avait d'autres voies possibles. Mais en effet, ce témoignage de Joséphine le montre très très bien. Elle dit « Les tueurs savaient exactement où nous étions et les tueurs ne sont pas fous dans ce que dit Joséphine. Les tueurs savent très bien ce qu'ils font puisqu'ils disent aux gens de retourner chez eux pour pouvoir mieux les débusquer. On voit exactement les mêmes logiques pour ce qui est des enfants. Puisque au début, les parents aussi tentent de cacher leurs enfants chez les voisins hutus en lesquels ils ont une parfaite confiance. Et les tueurs savent exactement sur la colline où sont cachés les enfants des voisins. Joséphine parle souvent de Séminéga. Séminéga, c'est un jeune homme qui avait 16 ans pendant le génocide et qui effectivement est à l'origine du dévoilement du récit de la mort du mari de Joséphine et également à l'origine du dévoilement du récit de la mort des trois enfants d'une autre rescapée. Et c'est lui qui a raconté comment on l'avait envoyé chercher ses trois enfants, précisément parce que les tueurs pariaient sur leur proximité d'âge, puisque Étienne Séminéga était jeune et donc les enfants allaient faire confiance aussi à ce jeune pour ne pas les faire paniquer. Et les tueurs avaient donné une consigne à Étienne. Ils lui avaient dit « Prends-les, mais sans les faire pleurer. Prends-les. » Et donc, il les a pris et les a amenés jusqu'à la fosse où venait d'être assassiné Apollinaire. Et les trois enfants ont été jetés dans la fosse. Ils ont été ensuite lapidés.
Ce génocide des voisins, ces gachacha auxquels Hélène Dumas, vous faites référence, vous y avez assisté. C'est ainsi que vous avez nourri votre travail de thèse et aujourd'hui votre livre. Le génocide au village, c'est votre façon aussi de qualifier cette spécificité du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc j'ai pu rencontrer Augustin à quelques centaines de mètres de la petite maison en terre de Joséphine. Ben, il y a celle d'Augustin sur cette même colline de Nyarurama. Augustin Moudadari revient sur les débuts du génocide.
Il y avait des réunions, les Tutsis étaient exclus. Mais avec la mort de Habyarimana, c'est devenu vraiment l'étincelle. Quand il y a eu cette mort, le matin, on a vu que il y avait plein de gens qui étaient avec des machettes, qui étaient violents, en colère. Et ils ont commencé à tuer les Tutsis sans leur parler. Ils rentraient dans leur maison, enfants, femmes, hommes, vieux, jeunes, tous. Ils les découpaient en machettes.
Vous avez vu ça où ?
Ici, pardon. Que ce soit là en face, que ce soit ici, à cet endroit qui nous entoure, moi je les ai vus de mes propres yeux.
Et alors vous, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait?
Moi,
ce que j'ai fait, j'ai eu peur et j'ai même caché des gens ici. Et malheureusement, on m'a attrapé avec ces gens. Ils ont voulu me tuer, mais finalement, ces gens ont été tués à ma place. Certains même étaient de ma famille. Les autres, c'était des voisins. Par exemple, il y avait ma sœur. Mais ma sœur n'a pas été tuée avec ses enfants, parce qu'il y a une autre personne qui est venue la prendre et la protéger. Mais il y avait mon beau-frère qui a été tué ici. Il y avait une fille qui était notre voisine qui habitait là en haut. Elle était venue aussi. Elle aussi, elle a été tuée ici. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voyais que tout le pays était agité. Et moi, je me suis dit, au moins, quand le pays est agité, bon, moi-même, je risque la mort, mais pourquoi pas ne pas le faire?
Cela veut dire que dans votre famille, il y avait des gens considérés comme Hutu et des gens considérés comme Tutsi dans la même famille?
Oui, on a dit que on
était vraiment entremêlés avec les Tutsis. Là où mon grand-père venait, là de l'autre Arutongo, il n'y a personne qui est resté. Sauf nous qui étions de ce côté. Et de ce côté, on ne nous connaissait pas.
Augustin, quand on vous a trouvé donc dans votre cachette, comment ça s'est passé?
Moi, ils sont venus, c'était une attaque au moins d'à peu près 30 personnes. Ils ont encerclé la maison. Et il y en a ceux qui sont venus toquer sur la porte. Moi, j'ai ouvert. Je ne savais pas que j'étais encerclé. Et ils m'ont dit, toi, tu caches les complices. Toi, tu caches les Tutsis. Évidemment, je n'ai pas nié. Parce que je savais qu'ils étaient au lit, à l'intérieur de la maison. Voilà pourquoi je dis que j'avais des gens à l'intérieur de la maison. Et il y avait une personne, Harimu Mugabo. Harimu Mugabo, Waruji Kumutugir.
Il y avait un
homme qui s'appelait Rusigarié, celui qui voulait en fait nous exécuter ici. Il m'a dit que toi, je dois te tuer. Il m'a même mis par terre pour m'égorger. Mais comme il y avait des gens qui me connaissaient, ils ont dit, ah non, il ne faut pas les tuer, on va lui demander par contre de l'amende. C'est comme ça que moi, ils ne m'ont pas tué. Ils ont tué la femme voisine et sa fille et mon beau-frère qui habitait là en bas. Moi, j'ai été obligé de payer 5 000 d'amende.
Augustin, est-ce que vous vous souvenez de l'attaque justement de la famille de Joséphine?
C'était aux environs de 15h. Et j'ai entendu des cris de ce côté-ci. Et quand tu entendais des cris, il fallait toujours y aller. Sinon, on t'accusait de ne pas avoir participé à l'attaque. Et c'est comme ça que je suis parti. Arrivé là-bas, j'ai vu qu'il venait d'achever son mari et ils l'ont jeté à ma présence. J'étais là. Ils l'ont jeté dans les latrines de son grand frère.
Augustin, est-ce que lors de toutes ces violences auxquelles vous avez participé, est-ce que parfois vous avez vu des gens hésiter? Est-ce que parfois vous avez vu des gens qui n'arrivaient pas à tuer?
Au
début, les gens hésitaient à passer à l'action, à tuer surtout leurs voisins. Mais après, des sensibilisations des militaires, ils nous disaient que l'ennemi c'était le Tutsi et que partout on voit le Tutsi, il faut l'éliminer. Voilà pourquoi moi, je ne condamne pas les simples citoyens.
Est-ce que vous connaissez d'autres gens comme vous qui ont refusé de tuer?
Oui, je connais des gens qui ont refusé de tuer. Je connais même des gens qui ont été tués pour avoir refusé de tuer, alors qu'ils n'étaient pas des Tutsis.
D'accord.
Ils refusaient catégoriquement et ils étaient exécutés du fait qu'ils ont refusé de tuer.
Exécutés par des voisins donc.
Ils étaient exécutés par leurs voisins.
Ça nous a vraiment
beaucoup choqués. Ça nous a traumatisés de voir que les voisins ont tué leurs voisins. Ça vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Parce qu'il arrivait des fois où ton voisin te disait, vraiment pardonne-moi, ne me tue pas. Laisse-moi être tué au moins par d'autres gens. Mais cette personne a refusé, il tuait son voisin. Et ça nous a vraiment énormément choqués.
Le témoignage d'Augustin Moudadari dans La Marche du Monde. Augustin a tenté de protéger des voisins Tutsis. Hélène Dumas, c'est une dimension du génocide des Tutsis au Rwanda dont on entend très très peu parler.
Oui, justement, peut-être parce que l'effet de masse du retournement du voisinage et de l'implication donc des voisins dans l'assassinat fait peut-être qu'on on a encore du mal à voir les logiques de protection comme celle qu'a réussi à mettre en œuvre Augustin Moudadari pendant le génocide, où il a tenté de mettre en œuvre, puisque les gens qu'il cachait chez lui ont été assassinés. Et ce qu'Augustin ne dit pas ici dans cet extrait, c'est qu'effectivement il a dû payer une amende pour avoir caché ces gens chez lui, dont un était son beau-frère puisque sa sœur était mariée à un Tutsi, mais qu'il a également dû frapper une des personnes qui était cachée chez lui pour montrer son adhésion au projet génocide, et qu'il a tenté, lui, de tenir sa place sur la barrière à laquelle il était assigné, afin d'éviter justement d'être intégré dans les groupes de tueurs dont il pressentait très bien tout le danger. Et donc, il faut aussi s'intéresser à ces itinéraires.
Augustin, tout comme Joséphine, sont profondément marqués et traumatisés 20 ans après le génocide où 1 million de personnes ont été tuées. 60% des victimes ont été assassinées par des proches, Hélène Dumas, et 5000 mineurs ont également été incarcérés au Rwanda pour avoir participé au génocide. Comment l'historienne que vous êtes, qui a travaillé pendant 10 ans sur le terrain, l'explique ?
Et bien sûr, il y a la mobilisation des souvenirs historiques, la propagande et également le contexte de guerre aussi qui fait beaucoup pour réactiver la figure d'un ennemi héréditaire.
Rappelons que le Rwanda est en guerre à ce moment-là depuis 1990,
oui.
Hein, une guerre qui oppose les troupes FPR qui étaient donc des troupes, on va dire rapidement Tutsi, qui viennent notamment de l'Ouganda, hein, des Tutsi qui avaient fui le Rwanda, contre les troupes militaires gouvernementales.
Tout à fait. Et cet imaginaire de guerre extrêmement puissant, donc qui est réactivé à partir de 1990. Alors effectivement, dans les médias, dans une propagande, mais également dans tout un tas de circuits beaucoup plus informels, hein, comme les discussions de cabaret, les réunions locales. Il y a une autre des personnes que j'ai rencontrée, donc qui a participé au meurtre des enfants de son voisin, qui racontait de quelle manière. Eh bien, les petites réunions locales ou les discussions de cabaret permettaient de faire diffuser peu à peu cette idée que le Tutsi est vraiment l'ennemi et que même le voisin, eh bien, peut revêtir cette figure de l'ennemi. Je pense que l'imaginaire de guerre est extrêmement important. Et puis, dans l'acte même de tuer, effectivement, on voit tous ces processus d'animalisation, de chosification qui sont appliqués donc aux Tutsis. Il y a une forme d'utopie, hein, dans cette extermination, l'utopie d'un Rwanda sans Tutsis, puisque plusieurs propos tenu par les tueurs, rapporte qu'ils se disaient entre eux « Il ne faut plus jamais qu'un enfant Hutu nous dise à quoi ressemble un Tutsi ». Et je trouve également qu'il faut porter une grande attention au pillage et à la destruction des maisons, parce que c'est une façon d'éradiquer de l'espace même le souvenir des Tutsis.
Avant de se quitter, Hélène Dumas, je vous propose de retrouver une dernière fois Joséphine, dont le mari a été assassiné pendant le génocide. Nous sommes assises par terre sur une natte dans sa petite maison de terre qu'elle occupe avec sa fille et ses deux vaches. Elle évoque son quotidien, Joséphine, 20 ans après le génocide.
J'ai récupéré tous les champs qui appartenaient à mon mari.
Comment vous voyez, vous, Joséphine, ici, en haut de la colline ?
Au fait, ici, je me vois d'abord comme une Rwandaise. Je me vois comme une personne de la famille, puisque j'ai marié la famille. Je me vois aussi propriétaire de cet endroit, en vivant dans ma propriété. Je vis ici aussi comme une personne qui a des souvenirs ici, de mauvais souvenirs que j'ai traversés ici, auxquels j'ai droit de m'en souvenir et de vivre sans pour autant que personne m'en écarte. C'est mon droit et je lutterai pour ça.
C'est mon droit et je lutterai pour ça. Qu'est-ce que signifient les mots de Joséphine pour vous, Hélène Dumas, et pour l'avenir du Rwanda, 20 ans après génocide?
Je trouve les propos, évidemment, d'une extrême dignité. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de l'endroit où vit Joséphine. C'est une maison presque croulante. Elle vit dans une misère absolue. Et pourtant, elle a des propos d'une dignité extrême. Elle disait tout à l'heure qu'elle ne voulait pas tendre la main à ses tueurs. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, tout comme elle a parcouru les Gachacha pour savoir ce qui était arrivé à son mari, puis à sa belle famille. Et bien ici, elle se bat pour rester aux côtés de ses morts, malgré tous les problèmes de propriété. Et je trouve que c'est une parole qui rend assez bien compte de la dignité de ces gens que l'on peut rencontrer au hasard des collines.
Et notamment sur cette colline de Nyarurama. Merci. Hélène Dumas, votre livre « Le génocide au village » est publié aux éditions du Seuil. Vous pouvez également retrouver le témoignage de Joséphine Campiré au mémorial de la Shoah à Paris, dans l'expo sur le génocide des Tutsis au Rwanda, dont RFI est partenaire. Rwanda, les mots de Joséphine et d'Augustin. C'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani. N'oubliez pas de vous exprimer sur marche.monde@rfi.fr et sur Facebook. Vous pouvez aussi podcaster cette émission, c'est la vôtre.